pouvoir commencer cette table ronde qui s'intitule « Quand la machine surprotège l'homme », avec une petite différence entre projet protégé et surprotégé. Je vais détailler ça un peu plus tard. Donc, je vais déjà présenter les différents intervenants. Donc, je vais commencer par Martin Lessard, écrivain de SF québécois. Et ceux qui étaient hier savent que désormais, le Québec, pour moi, c'est quelque chose d'un peu plus supplémentaire. Donc, voilà. Donc, Martin Lessard, vous avez commencé à publier des nouvelles en 2009, avant de sortir un roman intitulé « Terre sans mal » chez De Noël en 2011. Et tout récemment, donc, « Les saisons de l'indépendance » chez Ad Astra, qui est un planète opéra. Paolo Bassigalupi, donc écrivain américain, qui est connu en France, premier roman, par « La fille automate », « The Wind Up Girl », qui a obtenu le prix Hugo donc en 2010, je crois, ainsi que le Nebula, donc de nombreux prix. Et aussi, ce qui est aussi intéressant, un recueil de nouvelles, La fille flûte et autres fragments de futur brisé, pardon, toujours au Diable Vauvert, qui a obtenu le Grand Prix de l'Imaginaire en 2015. Votre dernier roman, c'est Water Knife, qui était traduit par Sarah Dock. Tous vos ouvrages en France ont été traduits par Sarah Dock, qui est donc votre dernier roman et qui est un thriller sur finalement la guerre de l'eau. Donc ça, c'est pour la partie auteur de la table ronde. Maintenant, on va passer à la partie scientifique, puisque il y a vraiment un aspect scientifique dans cette table ronde. Donc d'abord, Laurence Boisset, donc ingénieur à la direction de l'énergie nucléaire au CEA. Plus particulièrement sur l'innovation sur le secteur de l'assainissement et du démantèlement des installations nucléaires. Donc vraiment, on parle de protection, donc là vraiment sur la question du danger, on est au top du top. Christophe Bernard, donc directeur de recherche à l'Institut de neurosciences des systèmes à Aix-Marseille, c'est ça, avec des recherches autour du développement de micropompes alliant électronique et organique pour améliorer l'effet de substances thérapeutiques dans le traitement, notamment, de l'épilepsie. Et enfin, Olivier Grasset, cette fois-ci, on va très très loin, c'est-à-dire directeur adjoint du labo de planétologie et géodynamique de Nantes et co-responsable d'une mission de l'ESA vers Jupiter en 2022. Donc non seulement on est dans l'espace, mais dans le futur. Donc voilà. Alors, donc, quand on parle de la machine surprotège l'homme, j'ai envie de commencer tout de suite par évoquer la figure d'Asimov avec les robots. On connaît les trois lois de la robotique. Enfin, mais il y a une loi zéro qui est intéressante, puisque finalement, cette loi zéro dit que les robots, au bout d'un moment, se disent que comme les humains, finalement, se font du mal, il y a un moment où il faut que les robots prennent en charge. Donc, cette question de protection et de surprotection, que se passe-t-il quand les robots finalement viennent à juger les humains pour se dire les humains se font tellement de mal qu'il faut prendre en charge leur destin. Donc ça, c'est finalement la motivation qu'on peut trouver à cette table ronde. Maintenant, ce qu'on va essayer de voir à travers à la fois les recherches des ingénieurs et autres, et les auteurs de science-fiction, ce que ça veut dire que de protéger l'homme. Donc, première question que je vais adresser à Laurence Boisset, c'est que les machines sont parfois conçues pour effectuer des tâches faites par des humains, ce qui suscite, évidemment, quand on dit de ça, de confier des tâches à des robots, des tâches effectuées par les humains, on se dit on a la peur que les humains soient remplacés par des machines. Mais justement, ce qui est intéressant dans votre travail, si j'ose dire, c'est que est-ce que ce n'est pas parfois préférable d'être remplacé par des machines ?
Oui, alors c'est vrai qu'il y a quand même quelques nuances qu'il faut apporter par rapport à ça. C'est qu'il y a la machine qui va suppléer l'homme et puis il y a la machine qui va remplacer ou se substituer à l'homme. Et donc, entre ces différents niveaux, ben, finalement, il y a toute une gradation en fait, de ces robots qui vont interagir avec leur environnement dans une totale prolongation, une augmentation finalement de l'individu quand il travaille. Et puis, il y a la machine qui devient vraiment l'automate, qui va avoir sa propre intelligence, qui va être complètement finalement autonome dans ses gestes et qui va effectivement remplacer l'homme. Et puis il y a aussi cette machine qui va collaborer avec l'homme. Donc il y a un tas de nuances en fait dans ces différentes machines. Alors pourquoi on a besoin finalement de tous ces niveaux de robotique ? Eh bien parce qu'en général, enfin pour ce qui me concerne, donc c'est l'intervention dans les environnements hostiles. Alors qu'est-ce qu'on appelle un environnement hostile ? Effectivement, vous le disiez, dans l'énergie nucléaire, on va manipuler par exemple des substances irradiées, et donc on ne peut pas les manipuler directement, donc il va falloir se prolonger. Un homme ne peut pas vivre au contact donc d'une substance irradiée, il ne peut pas la manipuler, et donc on va créer une machine qui va justement se substituer, le prolonger pour intervenir au plus près de ce matériau. L'environnement hostile, ça peut être aussi un environnement dans lequel on va manipuler par exemple des substances bactériologiques, mais ça peut être aussi l'espace, hein, c'est un environnement hostile, l'espace, l'homme ne peut pas y évoluer naturellement. Ça peut être un environnement chimique, donc il y a tout un tas d'environnements hostiles avec donc des machines qui vont permettre à l'individu d'intervenir. Alors par exemple sur le stand Science Machina, vous avez un télémanipulateur, c'est en fait une prolongation du bras qui va permettre de prolonger chacun de ces gestes par une machine, comme si c'était une prothèse en fait, qui va intervenir dans l'environnement. Dans d'autres cas, on va avoir des machines qui vont travailler avec l'homme, c'est-à-dire que on va l'aider dans les tâches les plus pénibles, hein. L'objectif de tous ces progrès technologiques, c'est quand même justement de réduire la pénibilité vis-à-vis des opérateurs, éviter comme on a encore l'image, hein, je ne sais pas si vous rappelez les illustrations de Jules Verne avec 20 milieux sous les mers, on a le personnage avec son scaphandre. Aujourd'hui, il y a encore des interventions en scaphandre, hein, que ce soit dans des milieux profonds, qui sont aussi des environnements hostiles, ou des environnements nucléaires. On appelle ça d'ailleurs de la plongée dans un environnement nucléaire. Pourtant, il n'y a pas d'eau. Hein. Et donc, on voit bien combien ça peut être pénible de porter une tenue avec un masque, avec de l'air respirable. Et donc, l'objectif, c'est de faire en sorte déjà de faire intervenir l'homme le moins possible, ou tout au moins quand il doit intervenir, eh bien, d'intervenir d'une manière un peu plus allégée, hein, et donc l'aider, c'est ce qu'on appelle la robotique collaborative ou la cobotique. Voilà. Alors après, il y a d'autres systèmes qui sont des systèmes complètement autonomes. On pense aujourd'hui à des humanoïdes, hein, qui vont, à l'image de Pepper, ou des petits robots, qui vont intervenir dans des environnements, qui vont avoir entre guillemets, leur libre arbitre. Alors, quand on parle de libre arbitre, c'est bien évidemment qu'ils sont intégralement programmés pour réaliser des opérations. Et donc, ils vont avoir toutes ces opérations, toute cette la compréhension de leur environnement. Ils vont interagir par des gestes qui sont préprogrammés. Et ils vont aussi éventuellement se préserver de ces environnements hostiles. Hein. Par exemple, quand on parle de radiation, eh bien, il y a les dangers de la radiation sur l'électronique. Donc, ils vont finalement se cacher derrière des parois, ou ils vont apprendre à vivre le plus longtemps possible, hein, donc on y attribue tout un tas d'adjectifs qui sont très, très humains, hein, finalement. Hein. Et donc, ils vont finalement être autonomes dans leur environnement, tout en reproduisant un certain nombre de gestes. Et là, effectivement, ils se substituent à l'homme. D'accord. Voilà.
Je peux rebondir là-dessus. Il y a un autre environnement hostile, autre que l'espace et l'environnement nucléaire, c'est la rue et la route. Et on parle des systèmes embarqués qui peuvent aider à la décision humaine. Je voudrais commencer en fait par la fin du débat d'hier, qui est le fameux exemple de la Tesla qui a eu un accident. Et les Tesla ont embarqué dans leur système aussi la détection de piétons, par exemple, qui traversent, et de systèmes pour pouvoir les éviter. Là, c'est une question que je voudrais poser aux deux auteurs, parce que c'est eux qui peuvent nous apporter la réflexion nécessaire pour répondre à ce genre de questions. Maintenant, la Tesla détecte un piéton qui traverse. Elle doit l'éviter, mais pour l'éviter, il n'y a qu'une seule trajectoire qui va faire que la Tesla va emboutir, par exemple, un lampadaire et qui va tuer l'occupant. Maintenant, comment on programme ça ? Où on place la décision ? Qu'est-ce qui est prioritaire, le conducteur ou bien la personne qui passe?
Là, je pense qu'encore une fois, on s'en remet à l'humain parce que la programmation sera faite par l'humain. Donc, je ne sais pas, il y aurait certainement un consensus. Je ne sais pas. J'imagine d'un auteur à l'autre, on y va de nos théories, mais dans le pratique, il faut s'en remettre toujours à l'humain, mais c'est des faux choix, hein, c'est prioriser.
Pour dire, c'est le classique dilemme du train.
Ouais, donc, ouais, exactement, c'est ça. Mais bon.
So a couple of different things, specifically about the Tesla question. From what I understand and what I've read, it turns out that while that's a very interesting intellectual question we can ask, almost always the answer for the car is to just slam on the brakes. It's not actually as it's a thought experiment that we can run, but the reality is that as far as software is concerned, basically slamming on the brakes solves most of the problems. It's the detection of the pedestrian in the road that matters. It's the reaction to the fact that there is a pedestrian in the road that matters. That's where human error mostly shows up. It's our failure to detect that there is a pedestrian. And that's where the intervention of the machine is highly valuable, not so much in the decision making, but in the simple detection that there is an obstacle, that a human being is asleep or distracted or whatever the thing is that's going on, that allows a machine intervention to improve upon overall human driving behaviors. The other thought I had was specifically about hostile environments. And, you know, coming from America, one of the things we're increasingly placing machines in hostile environments, which are war environments, combat environments. We use drones, we're using robots, we're placing mechanical sort of tools out there so that we don't have to take risks at war. And the interesting thing about that to me is that it means that war is relatively easy and cheap for us in many ways. If we can send in drones, it means that we aren't risking human pilots. If we can, there was an example just recently in the United States, there was a police incident, there was a shooting incident in Texas, and the person had been shooting at a crowd and then had been, the shooter had sort of hidden away, but police were able to drive a small robot in and blow him up. And which is an interesting thing. It solved the problem of the shooter, but it essentially allowed us to make decisions that weren't necessarily ethical. And essentially, there was a decision somewhere along the way that said that it was okay to execute this person rather than try to capture them, rather than try to... There were a whole lot of other decisions that stopped being available to us because we were protected from the danger of sending in something to just kill the person. And to me, that was a really interesting moment because in one way, we're protecting ourselves. Oh, I can send this robot in to deal with this dangerous person. But at the same time, it opened up a whole other set of ethical questions about how we interact with combat, how we interact with fighting, how we interact with war, and whether or not that actually, because we're so protected from war, that it means that we also believe that war is an easy solution and that killing is an easy solution because there's no risk to us as a participant. It's only a risk for the other participant.
Oui, puisque ça part en vrille dès maintenant, on y va. Juste dans la continuité.
Moi je parle, mais je suis content, moi.
Ce qui vient d'être dit sur la guerre, bon, clairement, dans le monde de l'espace, puisqu'on a parlé d'hostilité, on est exactement dans la même chose. Soyons très clairs, ça fait belle lurette qu'on sait qu'on n'a pas besoin d'envoyer l'homme. De toute façon, aucune machine ne protégera efficacement l'homme dès qu'on sort de l'orbite basse, c'est-à-dire quelques centaines de kilomètres de la Terre. Très clairement, comme il disait, hein, ce qui est cheap, hein, ce qui ne va pas coûter cher, c'est d'envoyer les machines et déjà de s'assurer qu'on arrive à protéger les machines. L'exemple des radiations qui a été amené dans le cas des centrales ou des espaces radioactifs, on a exactement les mêmes choses dans les ceintures de Jupiter, on a exactement les mêmes choses dès qu'on s'approche du Soleil. Notre problème déjà est de protéger les machines. Imaginez protéger des hommes dans un environnement ultra hostile, on n'y pense même pas. Donc on se retrouve tous dans le même contexte où à un moment donné, le problème est qu'il va falloir faire prendre une décision à une machine parce que nous, le transfert de l'info, elle va prendre 8 minutes au minimum, parfois plusieurs heures, si on se retrouve au-delà de Saturne. Et la machine doit prendre la bonne décision. Alors, il n'y a aucun risque pour les humains, on n'est pas dans le cas de la voiture Tesla, mais il y a des risques sur les budgets qui ont été embarqués. Si on prend la mauvaise décision, on fait la mauvaise manip. Mais voilà, le débat, il n'est pas avec l'homme, parce que l'homme, on ne se pose même pas la question. Ça fait longtemps qu'on sait que, de toute façon, on le verra. Enfin, l'envoyer dans l'espace, c'est pour le luxe et c'est pour d'autres objectifs que simplement faire les missions spatiales et l'exploration du système solaire. On a des contextes assez parallèles, en fait.
Moi, je continue encore un peu avec les auteurs sur une question un peu plus générale, mais qui va rejoindre tout le monde, sur, d'une manière générale, de quoi la machine devrait nous protéger.
Oui, parce que là, on n'était pas dans la surprotection, on était vraiment dans le remplacement de l'homme, dans la continuité. Je ne sais pas si on se réfère à Asimov, on parlait tantôt. Dans le cycle de fondation, il y a la planète 30 heures qui en elle-même est une machine globale qui gère le climat, la nourriture, les transports. Et après des milliers d'années de bon fonctionnement, il commence à avoir des petites failles à droite, à gauche. Des failles que l'homme n'est plus capable de réparer parce qu'on a perdu le savoir. On ne s'est pas transmis le savoir d'entretien, de réparation. Peut-être les premières générations n'étaient capables, mais quand il ne se passe rien, on avait remis à la machine son propre entretien. Donc, la machine s'entretenait elle-même, la planète en général. Et quand il y a des petites failles, Asimov lui a fait... Il y a des quartiers complets, des fois, qui sont fermés parce que l'eau, la planète prenait l'eau, la température était mal gérée. Donc, un des dangers, je crois que ça serait de donner le contrôle à la machine. Là, évidemment, on est dans un futur lointain, on n'en est pas là aujourd'hui, mais en SF, quand on donne à la machine le pouvoir de se réparer elle-même, de nous rendre service, mais on lui confère, bien, le jour où ça cesse, dans le cas d'Asimov, là, ça cesse tranquillement, mais il y a des avaries. Par exemple, dans Ravage de Bergevel, là, c'est l'électricité coupe, donc il n'y a plus rien. On est dans un monde technologique, donc il n'y a plus rien, là, on le sait. Là, on est dans presque un post-apocalyptique. Mais ça peut se faire de manière plus légère, des petits trucs qu'on sait pas, parce qu'on ne s'est pas transmis. Puis, la machine est allée plus rapidement que les techniciens, que les scientifiques qui l'ont créée au départ. Donc je pense que en tout cas, en SF, c'est une des peurs, remettre le pouvoir à la machine de se contrôler elle-même.
Paolo, sur... de quoi la machine devrait nous protéger ou ne devrait pas nous protéger?
I think that there's, when I'm thinking about this, some I think on one level I think about things like Tesla, which can protect us from human error, from doing something that we're already not meant to be doing. We're not meant to be driving at 100 kilometers an hour. We were never, as human beings, meant to move that fast. We did not bioadapt to move that fast. And so I feel like those places where mechanization and machines and sensors and networks can allow us to be better at being fast-moving objects, I think that's a good intervention. I think that's a good spot for us to say, wait, we're actually beyond our design capacity here. If we're going to be moving this quickly, we actually should place some safety systems around us, because what we do is we do kill people. A lot of people die on highways, and it's not a necessary thing, but it's a consequence of our desire for instant gratification, which we're already running at, so we might as well do it more safely. I think that there's another class, though, of things where I think... So I grew up in Colorado in the mountains where there's a lot of wilderness, and it's sort of interesting to see people who come out of cities and aren't really... and have been protected, you know, all their lives from the environment, essentially. I mean, even the simplest things, like they don't know how to wear layers of clothing to keep themselves warm or whatever, because they don't realize that they aren't always going to be in climate-conditioned buildings. And it's a very interesting thing that we can become... I do think there's a point where we become very stupid about the world around us, and because we're so swaddled in different protections. And you know, I think that there's a moment, and for me it actually has to do with cell phones and people in the wilderness, that people with a cell phone can actually still call for help. I actually think they shouldn't be able to. I think that's that moment where it's like there is some level where we still have to have some level of human responsibility for the risks that we take, the risks that we pretend to take, and then to say, oh, I'm going to, people who go into places like Nepal and climb high mountains and they bring their satellite phones so that they can have a helicopter intervention. I don't think that that's appropriate. I think that there's this false sort of introduction of a whole lot of mechanized support systems for something that essentially should be dangerous. And if you want to go out into those places, those wild places, then you should accept all of those consequences, and that we shouldn't go everywhere in our lives thinking, oh, well, somebody will come and pick me up and carry me home if I, scrape my knee. And that's that moment where I do think we are infantilized, and it's a feeling of childishness, that it creates a childish sort of selfishness in ourselves, that we don't have, that there aren't consequences to our actions. And I'd like to see at least some boundary where where we say, no, no, in these zones, in these arenas, there are consequences. We are not going to create machinery, or we are not going to allow technological interventions, because you should actually run into the hard edges of the outside world.
On peut aussi généraliser ce concept à notre environnement qui est hostile par nature, avec toutes les bactéries et les virus qui existent. Il faut savoir que dans notre génome, on a incorporé un pourcentage assez important de virus, du génome viral, et que ça nous aide à survivre en tant qu'espèce. Et toutes les espèces évoluent dans le temps. Elles s'adaptent à des conditions extrêmes. Maintenant, on est dans une phase du développement de la société où on essaye de se surprotéger de l'environnement, des attaques bactériennes, des attaques virales. Mais celles-là, elles sont nécessaires pour notre propre évolution. Si on empêche tout ça, y compris avec des machines ou même des médicaments, on risque d'appauvrir notre capacité à évoluer et à vivre, à ne pouvoir survivre que dans un monde aseptisé. Et à partir du moment où on n'est plus capable de vivre dans ce monde aseptisé, c'est aller vers la fin de l'espèce. Donc c'est une question très importante. À quel moment on doit stopper la protection de l'homme, en sachant que le gain n'est pas si élevé que ça, et que ça peut même appauvrir l'espèce. Si vous regardez les bactéries, on essaye de contrôler l'activité des bactéries avec des antibiotiques. Vous savez très bien que les bactéries, au bout d'un certain temps, elles évoluent et elles deviennent résistantes aux antibiotiques. L'espèce humaine, c'est pareil, elle s'est adaptée, elle est devenue résistante aux attaques extérieures. Si on empêche ça, on appauvrit l'espèce.
Christophe Bernard, on va continuer avec vous, justement, sur vos recherches. Il y a un aspect que je trouve très intéressant, c'est que le corps lui-même, le corps humain, parce que là, on a vu d'une protection extérieure, finalement, toutes les machines protègent extérieurement l'homme. Et vous, dans vos recherches, vous avez expliqué un peu des micro-machines qui relient du mécanique et du biologique pour aider le corps humain à se guérir, parce que lui-même, le corps ne peut pas tout seul, va à l'encontre du traitement. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu comment ça fonctionne ?
Alors, le type de technologie, de microtechnologie qu'on a développée, c'est d'une part d'enregistrer l'activité du cerveau avec des électrodes qui sont 20 fois plus fines qu'un cheveu, donc très peu invasives, qui sont en matériaux organiques, donc complètement tolérés par le cerveau, et qui ont la capacité d'enregistrer l'activité des cellules du cerveau. Ça, c'est pour faire des interfaces cerveau-machine. Nous, ce qu'on espère, c'est que ce soit utilisé, par exemple, pour piloter des exosquelettes pour les personnes paralysées. Donc, vous mettez l'électrode dans une partie du cerveau qui commande normalement les bras et les jambes, et puis vous décodez le signal avec ces électrodes. Ça, on sait le faire, et piloter un exosquelette. Donc, par la pensée, c'est envisageable. Donc là, c'est quand le corps n'y arrive plus, ne peut plus commander parce qu'il y a une transection de la moelle, par exemple. Et on peut très bien envisager ça dans un futur assez proche. Moi, ce qui me fait peur, c'est que les militaires récupèrent ce genre de technologie pour pouvoir piloter par la pensée des avions, des drones, etc. Il n'y aura même plus besoin d'avoir des joysticks. Le deuxième aspect, c'est quand vous avez une pathologie cérébrale et qu'il va falloir aller traiter une région particulière du cerveau. Et l'autre technologie qu'on a développée, c'est de faire des micropompes, toujours de la même taille, 20 fois plus petites qu'un cheveu, qui vont délivrer des médicaments directement dans les régions du cerveau qui sont malades, sans affecter les régions saines. Ce qui est une amélioration considérable par rapport aux prises de médicaments qu'on connaît actuellement par voie orale, qui doivent d'abord passer la barrière des vaisseaux sanguins, mais si elles passent la barrière des vaisseaux sanguins, elles affectent toutes les régions du cerveau, ce qui n'est pas bon, puisque ça fait des effets secondaires, comme vous le savez, pour n'importe quel médicament. Et là, l'idée qu'on a eue, c'est de faire cette micropompe qui va uniquement contrôler l'activité du cerveau qui doit être contrôlée.
J'aurais voulu rebondir sur ce que vous disiez, qui était finalement, quand ces machines en viennent à se substituer totalement finalement à l'homme, et quelle est la crainte d'un environnement dans lequel on est complètement perdu la maîtrise de ces machines, qu'on ne puisse plus les réparer, et donc finalement qu'on en perde totalement le confort aussi dans lequel on vit aujourd'hui. Hein. Donc je pense que ça passe par quelque chose qui est fondamental, qui est l'éducation et la formation, et la formation technologique. C'est vrai qu'on a tous aujourd'hui un téléphone dans nos poches, on ne sait pas comment ça fonctionne. On est tous dans des environnements extrêmement technologiques et on n'a pas forcément la compréhension tous hein, de la finesse, de la manière dont ça marche. Je pense que l'éducation à ces technologies, elle est fondamentale hein, à un moment où justement les jeunes, des fois, ont tendance à se détourner des carrières scientifiques. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement important pour conserver la maîtrise, parce que c'est vrai que l'obsolescence vient très vite, qu'on ne sait plus réparer. Et donc, ça doit être partie intégrante des développements technologiques qu'on fait aujourd'hui. Alors, heureusement, quand même, il n'y a pas que des machines, et j'y reviens, que des machines qui se substituent à l'homme. Il y a cette notion d'augmentation de l'homme. Et quelque part, de quoi on devrait aussi ne pas se protéger, ou qu'il n'y ait pas trop de surprotection, il faut que l'homme, je pense, garde sa tendance à l'exploration, ses rêves d'enfant, hein, qui est aussi le rêve des aventuriers. Hein. On va toujours au-devant et au-devant du risque, c'est ce qui nous fait avancer, c'est ce qui fait avancer l'humanité aussi, c'est d'être confronté, effectivement, à des environnements différents, ou à des bactéries, ou à des environnements chimiques différents. Et donc, aujourd'hui, la machine, elle a cette remarquable capacité de nous augmenter pour aller toujours vers du plus loin. Hein. Et des machines qui vont aller plus loin dans le regard, qui vont nous permettre d'avoir aussi du toucher. Hein. C'est ce qu'on voit, par exemple, aujourd'hui, quand on fait intervenir des machines dans des environnements hostiles, on a la capacité d'avoir le ressenti de la machine et donc de pouvoir en conserver la maîtrise. Et ça, c'est important. Hein. Qui dit prolongation, qui dit augmentation, dit qu'on garde en même temps le fonctionnement, l'autonomie et le libre arbitre. Le déterminisme finalement hein, par rapport à la machine. Donc on n'est pas dans une substitution complète, on est dans une augmentation, mais conserver cette maîtrise de l'augmentation, ça va nous amener à aller toujours plus loin et ça va faire en sorte qu'on ne dévitalise pas finalement notre propre humanité.
Voilà. Oui. Juste une question, on a parlé de protection, je décalais un peu sur la question de la sûreté finalement. Parce qu'on part du principe que voilà, les machines nous protègent. Mais d'une manière générale, ça s'adresse à tout le monde. Est-ce qu'il est plus sûr de confier notre sécurité aux machines qu'aux humains ?
On lutte contre le facteur humain quand même. Enfin, quelque part... Il y a effectivement le facteur humain. On parlait par exemple dans les machines, dans les systèmes qui vont permettre de faire de la conduite, eh bien de d'éviter l'endormissement du conducteur. Donc il y a toute la notion de facteur humain qui présente un risque et contre lequel la machine effectivement peut être une parade efficace. Hein. Voilà.
Je pense que chacun... Enfin, il n'y a pas de réponse unique, forcément. Puis qu'on parle, là, il y a un truc qui m'interpelle dans le titre de la table ronde, c'est que je réalise que derrière chaque machine, il y a des hommes, et la question qui se pose aussi, c'est à quel moment l'homme surprotège l'homme, qui rejoint là, ce qui a été très bien abordé sur ce problème de acceptant le risque quand on part se paumer dans la montagne ou simplement quand on traverse la rue aussi. À la question posée, moi je vais donner par rapport à mon champ d'expertise, un des risques que court l'humanité, enfin, parmi de très nombreux autres, évidemment, est lié à l'activité du soleil. Et aujourd'hui, on travaille énormément sur la météo solaire et sur cette capacité qu'a aujourd'hui la Terre à se protéger du vent solaire et des tempêtes solaires. On ne sait pas jusqu'à dans quelle mesure ce genre de choses peut évoluer et en particulier perturber l'activité humaine. Alors, dans l'histoire de l'humanité, ça n'a jamais été un gros problème. Tant que on n'a pas de machine et que l'homme est l'homme et qu'on vit dans une nature, on va dire, relativement simple, qui est la nature elle-même, sans aucune machine... les perturbations électromagnétiques de les tempêtes solaires, on s'en fiche complètement. Ça va perturber les boussoles des oiseaux, ça va nous perturber nous aussi à un moment ou un autre, mais ça va rien faire d'autre. Le jour où on est suronvironné de machines, qui évidemment communiquent entre elles, on sait tous qu'on a une dépendance extraordinairement plus importante et nous sommes extrêmement sensibles à ces perturbations électromagnétiques. À ce stade, il n'y a pas de solution, sinon se protéger par d'autres machines. Et ce qu'on appelle aujourd'hui cette météo solaire, où on envoie tout un tas de réseaux de satellites dans l'espace qui sont là pour faire la météo du soleil et faire du prédictif sur la météo du solaire, c'est des machines qui sont là pour protéger nos propres machines, qui protègent ou pas l'homme, j'en sais rien. Mais voilà un élément de réponse parmi sans doute beaucoup d'autres.
Bon. Paolo?
Well, I think it's really interesting that you bring up this idea that the machines have certain capacities that are better than human, but they also have specific vulnerabilities that are different from human. And I'm always interested in when we have a technological solution, what the surprise or the what we fail to anticipate that will create the next problem. It's not this problem that we're solving for. It's always the next problem that we're surprised by, and that's. For me as a science fiction writer, that's where all the fun is finding that oh, well, we didn't think of that. and so, you know, I think that on one level there's this, the fundamental reliability of machines oftentimes is so much higher than a human being. And that going back to something like driving, the number of times I admit that I am a distracted and poor driver, it's embarrassing. And so, you know, even if Tesla occasionally drives off a cliff, it still would be better for me than me driving myself. I find myself to be a horror when I get into the car, and I wish I wasn't doing it. But this idea, the larger idea of what comes next after we're protected, after we anticipate that everything works all the time, and whether that's the vulnerabilities of machines or whether that's the sense that everything works and we don't understand why it broke. One thing that I am interested in and that you've already touched on is this idea that because there are so many systems in place and all of those are specialized systems and we can't actually ever understand all of the systems, you know, even with our cell phones and our communications networks, we will never understand all the systems that have to work together in this extremely specialized, perfected way to allow us to all communicate, and we take it for granted now. And it is interesting when you have a cell phone outage and how suddenly the world, you know, rocks beneath you, sort of, and you realize how dependent you were on that technology and how few things can happen now because you've turned all of your focus to pass through this device that turns out is only semi-reliable. And I do think that there is this moment where... The device makes you feel both secure, but it's also invisible to us. And then the dependencies, you'd actually, I guess the thing that I'm most interested in is where those dependencies, it's the invisible dependencies. It's the ones where you didn't realize that, oh, I was counting on that cell phone to get me across the city because I use maps to do it. And suddenly I have no map and I have no ability to figure out how to get from point A to point B anymore. That is the moment where I start thinking I don't know, I sort of feel like it goes too far, sort of, suddenly. Yeah. Even though it was perfect, you know, I was like, I love having this map. I can be in any city in the world, and I'm smart now, and I'm not lost. And how magical is that? And then to have it go away again and be like, wait, what are my best instincts now? Do I have any instincts for getting around in a city if I don't have my cell phone with me? And it turns out I lose those very quickly.
So the question, pardon, la question c'est, I don't know how it says it in English.
Did I forget the question? I might have forgot the question.
Contingency plan. Comment on dit contingency plan en français? Un plan d'urgence. Est-ce qu'on a besoin d'un plan d'urgence pour mettre la limite, pour continuer sur ce propos? C'est vrai qu'on utilise maintenant map ou quoi que ce soit dans son téléphone, mais si un jour il y a une tempête solaire et que ça détruit nos appareils électroniques, qu'on va se retrouver en rade et qu'on ne pourra plus utiliser ça et qu'il va falloir revenir à ce qu'on faisait par le passé et qu'on aura perdu, parce que c'est quelque chose que l'on acquiert, en tant que société, en tant qu'humanité, où est-ce qu'on place la limite de ce qui est acceptable, de ce qu'on va perdre par rapport à ce qu'on gagne avec les machines? Je ne pense pas qu'il y ait de débat encore là-dessus, mais je pense que c'est un débat très important. C'est une décision qui doit être prise au niveau de l'humain. À partir de quel moment on sait et qu'on accepte de perdre certaines capacités?
Je pense qu'on n'en est pas encore là, mais effectivement, il y a une question d'éthique. Par contre, j'ai l'impression qu'on repousse ce questionnement-là toujours, parce que c'est... On avance, c'est inévitable, ça ne s'arrêtera pas, là. On ne va pas retourner en arrière. On n'est pas dans les années 60, les groupes d'hippies là, qui retournent, on n'aura pas ça, c'est inévitable. Donc, effectivement, il va falloir se poser la question socialement, mais j'ai l'impression qu'on ne se la posera jamais, parce qu'on n'a jamais l'impression qu'on est rendu au bout. Bon, en SF, c'est génial, ça fait des bonnes idées, mais j'ai pas cette impression qu'on est encore à l'approche de poser la question où arrêter. Enfin, il faudrait, je pense, mais j'ai pas cette impression-là. Peut-être dans le monde scientifique, c'est déjà présent.
Mais dans le monde scientifique, on a exactement le même problème que vous mentionnez précédemment. Quand on ne maîtrise plus rien de la machine, vous savez tous qu'on utilise de l'IRM pour voir ce qui se passe à l'intérieur du corps ou à l'intérieur du cerveau. Pour analyser les images, ça demande des algorithmes qui sont devenus extrêmement compliqués avec des logiciels que peut-être 2 ou 3 personnes dans le monde connaissent. Les scientifiques et les cliniciens utilisent ces logiciels pour interpréter les données et pour faire un diagnostic. Mais maintenant, on a totalement perdu la connaissance de ce que fait cet algorithme. Et on ne sait même plus maîtriser le résultat. On ne sait même pas s'il est vrai, d'ailleurs. Et on s'est rendu compte récemment de cela. Et non seulement on vient de s'en rendre compte, mais on se rend compte que les programmes qui ont été faits, en fait, induisent un biais dans certains cas, et ils produisent une mauvaise interprétation des images. Donc quand on ne maîtrise plus l'objet et qu'on utilise quelque chose qui est extrêmement évolué techniquement, on peut aboutir à quelque chose qui est au détriment de ce qu'on voulait faire de façon originale. C'est déjà présent en science.
That's really interesting that you have the perception that you're seeing. The power of the machine gives you this perception that you're seeing into the brain, and yet you don't know all of the filters that it's using before it gives you that image, and so there's this illusion that you're seeing, and you don't. I'm delighted, horrified but delighted. Sorry.
Je voudrais peut-être un petit peu rassurer, hein, c'est que on a quand même des analyses de redondance systématiques, y compris la capacité de mettre en œuvre les systèmes les plus simples pour récupérer les équipements. On appelle ça, par exemple, on a des robots qu'on envoie dans des environnements hostiles, et il reste quelque part ce qu'on appelle un fil à la patte, c'est-à-dire le fil d'Ariane qui permet de récupérer le robot. Donc on en revient aussi dans tous les états de dégradation finalement de ces systèmes. Quand on perd finalement les systèmes les plus sophistiqués, on a toujours des systèmes d'ultime secours, entre guillemets, hein, dont le plus simple qui est peut-être de tirer sur le robot pour le récupérer. Donc je voudrais redonner quand même un certain niveau de confiance dans la manière dont on réalise ces équipements, c'est-à-dire qu'on fait des analyses systématiques de panne, peut-être parce qu'on est plus dans un système aujourd'hui très industriel, hein, mais on a ces analyses systématiques de panne qui permet de récupérer les équipements et de ne pas perdre totalement la maîtrise, y compris donc des systèmes très très basiques pour récupérer la technologie.
We have systems with the ability to set up systems if we think the industry or the technology is dangerous enough. So in the nuclear industry, we think, oh, that's pretty dangerous. Let's be really careful with it. But we don't think that way about, say, we don't think that way about our cell phone systems. We don't think that way about our cell networks. We don't have them hardened the way that we need to. We don't have many of our websites, which we use all the time, hardened. And we just saw something like that happening where you could create an entire botnet out of, connected security cameras, internet, you know, small internet devices that could create a denial of service attack. A swarm of for denial of service attacks against major websites that should have been hardened and thought they were hardened against denial of service, and it turns out they had no capacity to fight that. And what's interesting is because those websites operate in the consumer space, you know, if it's Twitter or if it's, you know, Google or whatever, they don't think of themselves as being involved in national security or radiation or whatever, and so they're a little like loose with how they do things, and until something jumps out and it says, oh wow, you can actually slave, you know, several million security cameras all to start pinging them at the same time. Until that happens, we actually it's like we've only started to touch the edges of exactly how vulnerable we are for many of these connected devices, for many of these machines that we use in our daily lives and depend on more and more. And so I think that there's, well, we have the capacity to be, you know, to either have failbacks or fail-safes or, you know, better security or anything. It's not something we do until after the fact, oftentimes, until after we've learned a very hard lesson. And
pour rebondir là-dessus, c'est on n'est pas à l'abri d'attaques. Par exemple, on peut recevoir sur nos téléphones portables, ça existe en Israël, tout le monde a ça, lorsqu'une attaque va se produire ou une requête est lancée, les personnes sont averties. Maintenant, si quelqu'un prend le contrôle de ce système, ce qui n'est pas très difficile avec un bon piratage informatique, vous pouvez envoyer toute une population, parce que vous êtes esclave de votre téléphone portable et que vous croyez tout ce qui vous arrive, dans un endroit et puis faire un attentat à cet endroit. Donc, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas et on est très vulnérable.
Write that down for a plot.
Ça continue dans la... En vous écoutant surtout sur la question de... Vous parlez des machines qui, notamment dans un environnement nucléaire, se protègent elles-mêmes parce qu'elles sont atteintes par le nucléaire ou dans l'espace. Je pense au fait que, par exemple, les sondes, on a suivi les sondes Philae, etc. Ce que je trouve intéressant, c'est que les humains ont finalement un sentiment d'empathie pour ces machines. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'attachement qui se fait à ces machines qui sont notre prolongement, mais aussi, ce que je veux mettre en évidence, c'est qu'en fait, on change notre rapport aux machines, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus simplement une machine, un outil, mais aussi, elles nous modifient notre empathie ou notre...
C'est une prolongation de soi, en particulier pour les machines qui interviennent, qui sont la prolongation du travailleur. La caméra, ce sont ses yeux. On en vient même à rajouter le son. Hein. C'est-à-dire que tous les sens de l'opérateur sont décuplés. Hein, et donc, de telle sorte qu'il puisse vraiment s'immerger totalement dans l'environnement dans lequel, néanmoins, il n'a pas accès et dans lequel il ne peut pas opérer. Donc, il y a le son, il y a la vue. Et puis, comme on disait, il y a aussi le ressenti, c'est-à-dire des résistances quand la machine rentre en collision. Lui-même le ressent alors qu'il peut être à plusieurs dizaines de mètres de l'installation dans laquelle il intervient. Donc oui, on parle de ses fonctions vitales, cette machine, ce sont nos yeux, c'est notre bras, c'est la prolongation du bras, on appelle ça un bras d'ailleurs, un bras télémanipulé. Donc oui, je pense qu'entre l'opérateur et sa machine, à un moment donné, il y a une fusion dans le travail.
Je pense justement aussi à l'espace, parce que là c'est encore autre chose.
Alors oui. Oui, d'abord, bon, vous avez un peu tout dit hein, sur le fait que... En effet, bon, l'exemple de Philae et de Rosetta qui s'est posé, on ne sait pas trop comment, d'ailleurs très récemment sur la comète 67P. Je vais dire d'abord que c'est avant tout une très belle opération de com. Hein. C'est la com qui fait que le grand public se sent partenaire, se sent quelque part impliqué dans cette aventure qui est d'abord et avant tout une aventure, c'est vrai, d'un robot qui extraordinairement sophistiqué, semi-indépendant. Et qui a derrière lui une batterie d'équipes humaines qui travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour faire le résultat que vous avez. Donc c'est sûr que derrière ça, quand ça marche bien, ce qui a été le cas de Philae, on a de l'émotionnel qui vient parce que c'est la première fois qu'on se positionne sur une comète, c'est la première fois qu'on voit des images qu'on n'a jamais vues avant. Le côté espace a cette magie de nous apporter via ces machines qu'on arrive à envoyer quelque chose de réellement neuf et nouveau, et donc on se l'approprie à titre personnel. Pour revenir sur ce qu'il vient de dire là, après il y a le monde professionnel. Et dans le monde professionnel, pas plus loin qu'au labo de Nantes, quand vous voyez les équipes qui sont non pas à l'heure terrestre mais à l'heure martienne, qui n'a pas le même nombre d'heures dans la journée, mais qui doivent en fait piloter leurs caméras et leur système d'exploration de la roche martienne à l'heure martienne, en fonction des tempêtes martiennes, en fonction de la météo martienne, qui doivent vivre sur Mars au sein du laboratoire, mais qui ont quelque part à jongler entre leur vie de famille, leur vie privée, et puis la vie martienne, parce que leur robot, il est là-bas, et leur machine, elle est là-bas, et le boulot qu'ils sont en train de faire, c'est la machine qui leur fait là-bas. Et là, c'est encore une autre dimension, je peux vous le dire.
Mais c'est ça, il y a un grand sentiment de fierté par rapport à la machine, particulièrement à l'espace, parce que c'est nouveau, on découvre. Mais bon, c'est le vieux débat. C'est un sentiment pratiquement paternel ou maternel qu'on a parce que c'est une création qu'on a faite. Bon, le débat de Dieu, est-ce qu'on est Dieu, on crée la machine? Mais il y a ça quand même dans le quotidien. Il y a Pepper ici qu'on a le robot, mais les enfants aiment ça. Il y a quelque chose d'humain. Je pense qu'on reproduit quelque chose. Évidemment, ce n'est pas toutes les machines qui ressemblent à l'homme, mais moi, j'ai un lien particulier avec mon sel. Donc,
mais la sonde a été humanisée aussi, oui. Parce que la fin, c'est typiquement humain. La presse titrait la sonde va terminer sa vie en se suicidant sur la comète.
Ça allait beaucoup plus loin que ça, puisque c'est la maman et son fils. Il y a vraiment eu une appropriation entre Philae, qui a été couvé par Rosetta pendant presque 9 ans de voyage, et puis à un moment, il faut se séparer, on coupe le cordon. Enfin, il y a eu tout ça qui a été suivi derrière. C'est là que je dis qu'il y a une énorme com. Ce qui n'empêche pas, quand vous voyez les images en direct de l'atterrissage forcé, on va dire, mais quand vous êtes dans la salle de contrôle de Darmstadt, et que vous voyez les pleurs de ces équipes qui ont suivi ça pendant des années, et soudain on apprend à l'Agence spatiale européenne qu'il va y avoir un suivi psychologique sur les personnels, je ne rigole pas, parce que c'est le propre de tous ces projets gigantesques où à un moment donné les gens ont mis leur vie dedans, dans une machine, voilà, qui a été en effet une magnifique réussite, mais il y en a un paquet d'autres dans ces domaines-là.
Je pense qu'aujourd'hui, de toute manière, c'est inéluctable, on l'a dit, hein, on vit avec nos machines.
Paolo, something about it?
I think that there's this thing that we just generally we identify with objects around us, and we identify with those things, and we start to apply the human characteristics to them. And so when we have an intimate relationship with something like these these drones or these probes or these landers, you see them go out and they seem so small. I think the size of them against space, I think the vulnerability that they have, we almost automatically start projecting our human sense of what that would be into the moment. And I mean, I think it's, you know, humanity's sort of great, you know, genius is that we have an ability to connect with other things, with one another, but also with other objects around us, and that we project that empathy and that connection onto things. It's and it's quite beautiful. And I think that one of the things that actually occurs to me is that oftentimes in the United States, especially the NASA Space Agency is always having a difficulty finding funding and always having difficulty getting the support of Congress to continue doing exploration and science research. And the thing that occurs to me is that the more a drone or a probe looks like a person or a creature that people can love, the more funding they're likely to get.
Peut-être des questions dans le public. Ah, là-bas.
Non mais première question qui fâche s'il en est, les personnes qui sont placées en état végétatif sont-elles surprotégées par des machines?
Oula, ça c'est une question éthique. Qu'est-ce que l'état végétatif? C'est une définition qui évolue. Maintenant, on sait que ce qu'on appelait état végétatif auparavant n'est plus tout à fait un état végétatif. Maintenant, la définition, c'est si on fait une IRM du cerveau et que on ne voit pas de réaction à une stimulation sensorielle, qui n'a vraiment plus d'activité, a priori, la personne est décédée. Donc la machine maintient en vie la personne parce que c'est de la mécanique, mais le cerveau n'est pas... Il n'y a plus rien, c'est plus du tout fonctionnel. Ce que l'on ne sait pas non plus, c'est s'il y a cette activité résiduelle, est-ce que la personne peut repartir plus tard? On n'en a aucune idée. Alors maintenant, est-ce qu'on accepte de maintenir la personne en vie artificielle pendant des années, en ne sachant pas si on va pouvoir la faire revenir, et si elle revient, dans quel état?
I think that there is something though about that. I think there is something about that, which is that in general, when I've talked to medical professionals about what they think of interventions, drastic interventions to keep people alive, all medical professionals that I've talked to, and from what I've read, they all agree that they don't want those interventions. That is overprotecting life. They want painkillers and they want to die, and that comes from them watching what the amount of intervention and the extreme levels that we can go to keep a body functioning, but not necessarily to keep it well or healthy or happy or anything else. And so there is some point where just because we can intervene doesn't necessarily mean, or our machines can intervene and keep pumping blood through us and keep us breathing that and feed us, that doesn't necessarily mean that we are alive anymore. And there is a limit. And interesting to me that the people who observe that day in and day out say they would never want those interventions.
Bonjour. Je voulais savoir, dans la mesure où l'homme restera un homme et que nous aimons beaucoup le risque, dans une société surprotégée, est-ce qu'on ne risque pas de voir se développer des comportements plus agressifs, plus suicidaires, parce qu'on en a déjà des traces dans l'univers d'aujourd'hui où, à travers un écran, on arrive à pousser des gens au suicide? Est-ce que c'est pas juste de l'infantilisation, comme on le disait pour les gens qui vont à la conquête de l'Everest en tongs? Est-ce que c'est pas plus une recherche de quelque chose de vivant dans un monde qui devient de plus en plus artificiel?
Je sais pas. On en revient toujours à l'éthique, à l'humain. On parle de la machine, mais il y a plusieurs machines dans plusieurs domaines, et on arrive toujours au moment où c'est où on dépasse ou on dépasse pas. Puis à chaque époque aussi, on repousse. Je sais pas.
C'est tout le problème des jeux vidéo aussi. Je suppose que vous faites allusion aussi à ça, aux jeux vidéo, où les gens peuvent se projeter dans un jeu vidéo et si leur personnage meurt, il se suicide. Ça s'est beaucoup produit, notamment aux États-Unis. Donc on s'immerge dans une réalité virtuelle, dans un univers informatique, en fait, et on perd tout contact avec la réalité. Mais après, bon, c'est une décision... C'est voulu par le gamer.
Et si on est résolument optimiste, ce que j'essaye d'être tout le temps, il ne faut jamais oublier quand même qu'il reste notre libre arbitre en toute chose. Et la machine, vous l'utilisez ou vous ne l'utilisez pas selon ce que vous souhaitez faire. Vous voulez faire une tranchée, vous le faites à la pioche et à la pelle, ou vous prenez la méga pelleteuse qui vous bousille tout le jardin à côté. Vous avez un téléphone haut de gamme, vous avez passé toute la durée de 7 heures à regarder toutes les 10 secondes si vous étiez bien connecté et qui vous a contacté et ce qu'il faut faire en cas d'une alerte de bombe. Vous l'avez simplement éteint parce que vous vouliez écouter ce qui se disait sur cette table. Et ce problème-là qui est permanent, tout est là pour moi, hein, les machines évoluent, tout évolue, mais nous conservons encore et toujours notre libre arbitre et c'est l'essence de toute chose.
Bonjour, j'ai une double question. La première, est-ce que vous craignez qu'on arrive à un moment où la machine est tellement efficace qu'on n'a plus besoin de vivre, dans le sens, c'est une interface qui est plus efficace que les yeux, que les oreilles, que la bouche, on va plus vite, on peut communiquer avec tout le monde par des ordinateurs, ce qui fait qu'on n'a même plus besoin de sortir de son caisson pour vivre. Et la deuxième question, c'est, est-ce que vous pensez qu'il serait une bonne chose de limiter les technologies quotidiennes à ce qu'on est capable de maîtriser au niveau des connaissances, au niveau de l'entretien, au niveau des influences que ça a sur le reste?
Pour la deuxième question, c'est impossible. C'est impossible, on ne peut pas le limiter, c'est impossible. Est-ce que ce serait bien? Encore là, ça serait une question d'éthique, il faudrait décider, mais c'est impossible. C'est l'humain qui va s'adapter à la machine, à sa création. C'est impossible. Moi, je vois pas aucun retour en arrière dans ça. Bon, c'est ma vision, mais
Le retour en arrière, enfin, de toute manière, je pense qu'à partir du moment où l'homme a commencé à influer sur son environnement, la révolution, elle était en marche, hein, c'est ce qu'on a appelé la révolution cognitive. L'homme des cavernes, finalement, était un homme très polyvalent. Aujourd'hui, on ne sait pas faire grand-chose, on est très spécialisé, au contraire. Et cette révolution, elle est en marche depuis qu'on est sorti du nomadisme.
On est très spécialisé, mais on a beaucoup plus de choix.
Alors,
aussi.
Alors, on a beaucoup plus de choix, mais on est très spécialisé et on ne peut pas revenir en arrière parce que, de toute façon, voilà, ce sont des millénaires. Donc, c'est l'ordre naturel. Quelque part, c'est un peu l'ordre naturel de l'humanité pour moi.
I think that there is something interesting, though, about the idea of what limits should we have, or what limits should we impose, or what. Because one of the things that I'm dealing with right now is I've got a 12-year-old son, and we're dealing with the question of how much time he should spend in front of a screen, how much time he should use a tablet, and what I'm noticing is the severe addictive behaviors that he has around the screen, around the games, around. And what I'm noticing is that it's not the technology so much that's the hazard itself, it's the way that the game designers build things to try to communicate and manipulate him that's the hazard. And I do think that there have to be some idea, there has to be some, it's not so much like, oh, should there be some limit on the technology, but there has to be limits on the behaviors about how we manipulate one another through the technology. One of the things, I mean, I don't think we actually have much choice when it comes to how often we check our cell phone, because every time we pick up our cell phone, we're getting a shot of dopamine or whatever that's giving us excitement. Oh, there's another message. Oh, I can't resist the click. It's an addictive, you know, behavior. There's a stimuli there. Every time my son sees that the game, oh, another, you know, thing has been built. It's time to rebuild again, you know. And they're reaching out again and again to push him and to connect to him and say, hey, check this out. Do it again. Do it again. Do it again. And that's not control anymore. It's not his control, certainly. It's somebody else's control. They're reaching through and controlling him. And that does disturb me. And I do think that there needs to be some kind of larger assessment of what things are healthy for us, because he's not in control. That's for certain.
Alors, pour rebondir là-dessus, on peut aussi généraliser au concept que la machine a à la fois des effets positifs et des effets négatifs. Par exemple, on parlait des écrans. On sait très bien que les enfants, mes enfants ont fait pareil, regardaient leur cell phone ou jouaient sur la tablette avant de se coucher dans leur lit. Si on fait ça, ça détruit le cycle veille-sommeil parce qu'on a toujours une biologie qui est basée sur l'absence d'interaction avec la technologie. Ça perturbe le cycle veille-sommeil, ça affecte les fonctions cognitives des enfants, ça diminue leur capacité. Il y a un rapport qui a été publié récemment qui montre que les enfants qui restent devant la télé, les jeunes enfants, ont un développement moteur qui est réduit et ça influe aussi sur leur capacité cognitive. Simplement de rester devant un écran, de plus bouger. Donc ça, ce sont les effets négatifs. Alors maintenant, je ne devrais pas dire ça, donc les parents, bouchez les oreilles de vos enfants. Il y a une étude américaine qui a été publiée qui a regardé quels étaient les effets sur les adolescents qui jouaient aux jeux de guerre par rapport aux jeux, par exemple, de stratégie, civilisation, ou trucs comme ça. Ils se sont rendus compte que les adolescents qui jouaient aux jeux de guerre devenaient beaucoup plus efficaces pour faire du multitasking plus tard dans leur milieu professionnel, alors que les autres qui jouaient à des jeux de construction, enfin de civilisation par exemple, étaient à un niveau inférieur. En fait, de jouer un peu, 3-4 heures par jour, ce qui est déjà beaucoup, ça permet d'augmenter les capacités cognitives des adolescents pour faire du multitasking, en étant dans un environnement professionnel, de gérer plusieurs activités en même temps. Donc il y a des choses qui peuvent favoriser le développement cognitif chez l'homme et des aspects extrêmement négatifs. Il faut être conscient de tout.
Je crois que là, le temps est terminé, sauf s'il y avait une dernière question éventuellement. Mais sinon, je crois qu'on a bien évalué le problème. Je vous remercie tous et je rappelle que les auteurs sont en dédicace maintenant.